ça demanderait. Alors là encore, il y a, disons, un conflit entre les données chiffrées. Les tenants de l'intervention privée, les grandes institutions financières internationales, il y a eu un rapport de M. Michel Camdessu, français, ancien président du Fonds monétaire international, qu'a conseillé M. Sarkozy, enfin bref, j'en passe. Il y a eu un rapport qui est paru en 2003 et ça reprend un peu, les chiffrages de l'oligarchie de l'eau qui affirme que l'intervention privée est nécessaire. Eux, ils chiffrent chaque année, les investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, c'est de 70 à 80 milliards de dollars. Ils estiment qu'il faudrait les porter à 180 milliards de dollars. Et là, il y a un débat, parce que toutes les communautés de base organisées dans les pays du Sud, les grands réseaux internationaux, les mobilisations citoyennes, etc., eux sont plutôt sur un chiffrage de 30 milliards de dollars par an. Parce que là, ce qu'il faut avoir à l'esprit, dans toutes les analyses financières, les projections, les travaux prospectifs qui sont réalisés par les grandes institutions internationales qui sont dans la logique du privé, en fait, c'est un peu la vente clé en main de solutions technologiques actuellement, implémentées au Nord. Il n'y a pas forcément nécessité de... Là, je vais faire attention aux termes que j'emploie. Il n'y a pas forcément nécessité, obligation de déployer des technologies très, très, très développées dans des pays, qui n'en ont pas forcément le besoin. Dit autrement, vous pouvez très bien répondre aux besoins d'une population en installant plusieurs bornes fontaines dans un village qui vont fournir un accès à l'eau. Il n'y a pas de nécessité absolue que tout le monde ait l'eau au robinet à la maison. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a un écart énorme entre, les calculs de coûts qui sont. Mais si, et ça commence à bouger d'ailleurs, parce que les tenants, l'initiative privée, etc., en rabattent un petit peu, ils tiennent compte un petit peu des échecs de la première phase de libéralisation qui a avorté. Donc là, c'est marrant parce qu'ils reprennent, ils récupèrent d'une certaine manière l'argumentaire qui a été construit contre eux ces dernières années. Ils sont très très forts pour ça. Donc si aujourd'hui on considère qu'il faudrait 30 milliards de dollars par an pendant 10 à 15 ans, c'est vrai que si on investissait 30 milliards de dollars par an dans 10 à 15 ans, mais à condition de le faire non pas de manière impérialiste en arrivant, on va vous dire ce qu'il faut faire, etc., etc. Et là c'est un peu en écho à une question que j'ai évoquée tout à l'heure. Je vous ai parlé de la gouvernance, de ce qui manque aussi, c'est les méthodologies de mise en œuvre de tout ça, les réglementations, etc. Et ce qui est absolument nécessaire, c'est de le faire en permettant aux populations directement concernées de participer à tout le processus avant que quoi que ce soit. Et ça, c'est fondamental. Vous devez d'abord demander aux gens comment il faut faire, recueillir leur avis, les impliquer dans le phénomène. Et là, on a, nous, une vision un peu biaisée franco-française. Et je vous invite, parce que je l'ai mis en lien sur mon blog, mais je ne sais plus où, mais je pourrais vous le fournir, c'est sur le site du Diplo. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport WASH, qui a été publié en 2004 et qui est excellent, qui est un rapport qui a été produit par plusieurs organismes qui s'occupent spécifiquement d'assainissement dans les pays du Sud et qui font une espèce de galerie d'initiatives pilotes, mais il y en a une cinquantaine, c'est un rapport extrêmement important, qui ont été mises en œuvre dans les pays du Sud. Et on se rend compte à travers ça que justement la fuite en avant technologique, le primat de la finance, de l'hypertechnologie, etc., dans lequel on baigne, n'est pas du tout adapté à ces pays-là. Et il y a des tas d'expériences qui réussissent, mais qui donnent des résultats absolument fantastiques, mais qui ne sont pas connus, quoi. Et ce rapport, donc WASH 2004, même si vous faites WASH 2004 sur Google, machin, tout, vous pouvez y arriver. En plus, il est traduit en français, enfin, il a été traduit en français ultérieurement, et recense comme ça une cinquantaine ou une soixantaine d'initiatives, et c'est des choses toutes simples. C'est par exemple, on installe des latrines dans un village, il y a un groupe de gens de ce village qui se constitue, c'est instituer des modalités pratiques, comment on va utiliser ça, apprendre aux enfants qu'il faut se laver les mains, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais qui ont un impact mais absolument phénoménal sur l'état de santé de la population. Et c'est donc, on n'est pas du tout dans les trucs Veolia qui va faire une usine de dessalement à 32 milliards de dollars, etc., etc. Et ça, j'insiste parce que c'est une réalité qui, dans notre prisme franco-français, totalement orienté par l'école française de l'eau, par les entreprises, par nanana, tous les ministères, etc. C'est une réalité qui nous échappe. Et là, c'est, dans une... c'est un peu l'approche anglo-saxonne de ces problèmes-là. Et je trouve que c'est, enfin, de toute façon, par principe, intéressant de se confronter à ça. Et là, on a l'écho d'initiatives. Vraiment, il faut pas énormément d'argent. C'est encore une fois une volonté politique, associer les populations, ne pas imposer des solutions dont on sait qu'elles fonctionnent pas. Parce que ce qui ne fonctionne pas, même au-delà de Veolia, Suez et compagnie, c'est que tout ce qui est mis en œuvre par les grandes institutions internationales, ça fait surtout gagner énormément d'argent à des consultants, à